Comment est-il possible de gagner en perspective, analyser les enjeux avec rigueur et influencer le succès de l'organisation? Avant de débuter l'épisode, nous avons une annonce spéciale à vous faire. Maîtriser la pensée stratégique est l'une des compétences les plus en demande au sein des organisations. Et nous voulons aller plus loin que le podcast. Au courant des 5 prochains jours, nous lançons la prévente de notre atelier en ligne « Développer et mettre en pratique sa pensée stratégique ». Cet atelier cohorte vous permettra d'aborder des enjeux stratégiques avec confiance et vous permettra de développer et communiquer des recommandations sur des bases solides. Nous ouvrons 10 places pour une inscription anticipée à notre atelier avec une énorme réduction en échange de vos commentaires durant la phase de finalisation de l'atelier. Notre futur atelier « Développer et mettre en pratique sa pensée stratégique » est disponible pour quelques jours avec une réduction de 50%. Inscrivez-vous dès aujourd'hui au prix réduit de lancement. N'attendez pas, ces 10 places sont disponibles jusqu'au vendredi 26 avril 2024 à 18h. Inscrivez-vous en suivant le lien en description ou visitez-nous au www.inteliaconsulting.com/formation.
Bonjour et bienvenue à l'épisode 6 du podcast « Innovation, agilité et excellence ». Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie de Véronica Marquez et d'Éric Lheureux, nous désirons aujourd'hui vous parler d'accompagnement du changement et d'agilité. Existe-t-il un lien entre les deux?
Bonjour Jean-François, bonjour Éric.
Bonjour Jean-François, bonjour Véronica.
Ouais, bonjour à vous deux. Le changement est partout aujourd'hui. On en parle un peu dans tous nos épisodes. Et il y a bien entendu plusieurs sources de changement. Ça aussi, on en a parlé un peu partout. Changement de l'environnement externe, changement de dirigeant, changement d'outils, de systèmes, de processus. Même des changements chez nos clients. Et du coup aussi, on parle souvent de management du changement ou d'accompagnement du changement. Mais ces expressions-là révèlent souvent aussi comment l'individu ou l'organisation perçoit ou vit le changement. S'il est vu comme devant être subi, on va plutôt parler de pilotage ou de management du changement, ou si à l'inverse, il est vu par les individus, par l'organisation comme normal. Et à ce moment-là, on va parler plutôt d'accompagnement au changement. Bien entendu, certains changements sont plus ponctuels que d'autres, on le vit en ce moment. D'autres sont plus évolutifs ou plus continus. On s'aperçoit que ces choses-là changent lentement, mais sur une base plus longue. Sans oublier aussi la dimension profondeur du changement qui, elle, peut aussi varier. Donc, voyons voir si les concepts d'agilité peuvent nous aider pour mieux réussir, entre guillemets, le changement. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer le changement, d'abord une affaire d'individu. On va parler d'évolution dans les pratiques d'accompagnement du changement et pour, dans une troisième partie terminée, sur comment est-ce que le changement agile ou l'agilité peut venir nous aider à mieux changer ou à aider nos organisations à changer un peu mieux ou un peu moins douloureusement. Donc, sans nécessairement rentrer dans tous les concepts psychologiques associés au changement, il faut quand même être bien conscient que le changement est difficile pour l'individu. C'est même assimilé à une forme de traumatisme. Donc, que le changement soit souhaité ou au contraire subi, le changement demeure une épreuve pour l'individu. Donc, chacun passe à travers plusieurs phases pour s'adapter à ce changement. Mais grosso modo, on peut les résumer dans les 4 phases suivantes. La première, c'est le déni. La personne ne voit pas ou ne veut pas voir d'une manière consciente que la réalité se transforme. On parle là d'hyperexcitation interne, on parle de choc, mais relativement peu de signes sont visibles. La deuxième phase, et celle-là est beaucoup plus souvent visible, c'est celle de la résistance. L'individu, la personne prend conscience du changement et commence à angoisser. On parle d'anxiété, on parle de colère, on parle de sentiments qui doivent être exprimés. Hein, confusion, un peu de critique, relativement peu d'échanges. Hein, ces sentiments-là sont exprimés la plupart du temps one-on-one.
Jean-François, quand on parle de résistance, ça crée généralement beaucoup d'angoisse chez les gestionnaires de projets qui doivent mettre en place ce changement-là, cette transformation-là. Mais à la fois, dans un projet impliquer les gens qui sont dans la phase de résistance, c'est une perle. C'est un bijou énorme parce que les commentaires qui vont venir de ces gens-là, les souffrances qu'ils vivent, l'angoisse qu'ils vivent, c'est valide. Et puis, souvent, ils vont soulever des points que soit on va devoir faire face plus tard dans le projet, qu'on va devoir régler plus tard, ou on va apprendre des éléments de résistance qu'on n'avait même pas soupçonné, fait que c'est une perle de travailler avec les gens qui se retrouvent dans cette phase-là de résistance dans le changement. Faut pas dénigrer la phase, je pense qu'elle est importante et elle peut au contraire apporter beaucoup à la gestion du changement.
Ouais, et tout dépend comment on voit le changement ou comment quels sont les aspects d'un projet qui implique des changements sont perçus par l'organisation. Mais ce qui est important de voir, c'est que quand l'humain est vu comme le sujet du changement, eh bien sûr, on va aller justement chercher ces résistances-là pour les intégrer et intégrer ces sources de résistance-là au projet. Quand l'humain est plutôt vu comme un sujet qui doit essentiellement absorber la nouvelle réalité que le projet ou que la situation implique, eh bien, à ce moment-là, les résistances doivent plutôt être contournées ou être vraiment brisées. Les efforts d'accompagnement dans ces cas-là vont être un petit peu plus étoffés. Les dernières phases, c'est une fois qu'on arrive à passer à travers cette phase de résistance-là, ce qui est dans certains cas pas nécessairement toujours gagné d'avance, on arrive à une phase d'exploration où les individus, les personnes acceptent et commencent à sortir de leur désarroi. Elles dialoguent, elles négocient, elles essaient, elles font diverses tentatives. Elles vont aussi échanger avec le groupe, avec d'autres individus, avec d'autres groupes pour voir un peu comment cette nouvelle réalité-là, ils peuvent s'insérer, peuvent en tirer parti, peuvent expérimenter autour de cette nouvelle réalité-là. Et puis finalement, une dernière phase qu'on parle d'engagement, les individus, les collaborateurs pensent et pratiquent leur métier ou font autrement. Donc, ils et elles ont intégré la nouvelle réalité, ils peuvent même agir collectivement pour aller encore plus loin. Ils proposent des idées, ils et elles se félicitent, ils veulent continuer à apprendre. Donc ça, c'est le but ultime d'un changement réussi. Éric?
Ce qui me fait réagir, quand tu parles des quatre phases du changement et comment qu'on peut s'adapter, en fait, c'est quand on regarde la notion du changement, de la façon que tu le décris, évidemment, l'individu est au centre d'une transformation. Et quand on la regarde du point de vue organisationnel, ben dans les projets comme Véronica, comme tu parlais, la notion de changement est d'abord et avant tout une dynamique humaine, d'abord et avant tout, avant même d'être une dynamique technique. Ce que je veux dire par technique, c'est que quand on regarde par expérience dans les projets qu'on a déjà vus dans notre vie antérieure, il y avait toujours celui qui levait la main qui disait « j'ai besoin d'un expert en gestion du changement ». Et pour moi, je m'inscris en faux avec cette perspective-là parce que le changement, d'abord et avant tout, est l'affaire de tout le monde. Si on intervient comme gestionnaire qui doit piloter une transformation, on est celui qui porte aussi le chapeau de gestionnaire de changement. C'est pas à quelqu'un d'autre d'intervenir. La notion de gestion du changement, compte tenu des quatre phases que tu mentionnais, il faut les aborder de façon extrêmement proactive et comme dirigeant, comme gestionnaire de projet, comme personne qui pilote une transformation, ben on doit avoir un regard avec les deux mains sur le volant par rapport à la gestion de changement. Donc pour moi, transformer une organisation, c'est transformer d'abord et avant tout des êtres humains. Et ce n'est pas juste une question de technologie ou une question uniquement de processus. Il y a une dynamique qui est très inhérente et c'est la dynamique humaine. Et dans cette condition-là, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que je peux faire participer les gens qui vont vivre cette transformation-là? Comment je peux, à la limite, créer un des moments de co-création par rapport à se rendre au point B où est-ce qu'on veut se rendre. Évidemment, ici, on n'est pas dans une restructuration, on parle pas d'un élément traumatisant de l'organisation, où est-ce que la co-création peut être extrêmement difficile.
Tout à fait.
Mais dans un contexte où est-ce que on peut mettre la table sur des éléments très positifs et très dynamiques et très proactifs, mais on a tout intérêt à aller chercher cette co-création-là parce que ça va amoindrir les éléments de résistance, ça va amoindrir les éléments de déni que tu as mentionnés.
Ou, comme Véronica disait, les résistances vont devenir une force positive dans la conception Exactement. Du to be, hein, de l'état, du l'état cherché par l'organisation. Je veux juste préciser quelque chose sur les spécialistes d'accompagnement du changement avant de passer le micro à Véronica. Les spécialistes, eux, amènent des outils et amènent des méthodologies, et une expertise qui est particulière dans cet aspect-là d'un projet de transformation. Encore une fois, et je veux bien préciser sur le fait qu'il y a plusieurs types de transformation. Il y a celles qui sont voulues et il y a celles qui sont subies. Hein, celles qu'on subit en ce moment, on n'a pas, entre guillemets, le choix. On voit bien, la COVID-19, c'est pas quelque chose que tu peux choisir, c'est pas un choix stratégique, c'est un choix c'est quelque chose qui est imposé de l'extérieur. Véronica, tu voulais dire quelque chose?
Oui, mais en fait, je voulais rebondir aussi sur ce que Rick avait dit sur les gestionnaires de gestion, mais les gens qui s'occupent de la gestion du changement. Je suis d'accord avec toi, Jean-François, il y a une méthodologie, il y a une technologie ou une technique qui doit être appropriée, qui doit être comprise pour aider les gens à cheminer au travers des différentes phases. Et en même temps, comme tu disais, Rick, c'est pas la responsabilité seulement que d'une personne.
Exactement.
Moi, je suis d'avis, pour l'avoir vu dans des équipes d'amélioration de processus, où les différents intervenants peuvent s'entraider dans le cheminement du changement. Donc, c'est pas non plus la responsabilité des gestionnaires nécessairement. Je pense que toute l'équipe peut collaborer ensemble à essayer de passer au travers de ces phases-là, à comprendre pourquoi les gens se retrouvent dans une phase ou dans l'autre. Et ça crée une synergie d'équipe qui est très forte, qui est très présente et qui a tendance à demeurer par la suite. Quand le projet est fini, quand l'implantation est faite, cet esprit d'équipe-là a tendance à demeurer. Et je pense que c'est un avantage important pour les organisations qui sont capables de capter cette force-là au sein de leurs équipes, parce que ça va perdurer dans le temps, ça va permettre d'affronter différentes situations toujours en équipe. Donc, ça n'a pas sous-estimé. Le côté technique de comment faire le changement est par contre très important et c'est là où je vois les spécialistes de gestion de changement qui peuvent nous accompagner pour mieux comprendre les différentes phases, pour mieux comprendre les éléments qui peuvent nous faire passer d'une phase à l'autre. Mais c'est vraiment un travail d'équipe pour moi, cet aspect-là.
Ouais, tu trahis aussi ton origine. On voit bien que le Lean, c'est un travail d'équipe. Donc, quand tu vois les choses, tu le vois à travers d'une perspective de travail d'équipe. Éric?
Puis je prends votre commentaire de tous les deux. Évidemment, quand j'ai fait mon commentaire tantôt, c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. C'est, je pense, justement, la responsabilité partagée de faire piloter la transformation. Évidemment, il y a des experts dans ces domaines-là. Il y a des experts qui ont les bonnes méthodologies et qui peuvent assister la transformation. Mais c'est pas vrai qu'on doit déléguer sans pour se délester de cette responsabilité-là.
Non, pas sur un spécialiste. Non, on est d'accord.
C'est ça, exactement. Oui.
Sans rentrer dans tous les modèles qu'on peut faire, là, je pense que tu as tout à fait raison. Donc, je veux juste terminer ce segment-là en disant que à partir du moment où le changement individuel et on comprend que le changement est un traumatisme pour l'individu, donc à partir de ce moment-là, il est normal de voir que la résistance au changement ne soit pas pathologique, mais normal. Ensuite, ces différentes phases-là, elles vont se dérouler à des vitesses et selon des issues différentes, selon les individus et selon les circonstances. Mais il est important ou il est intéressant de regarder un peu quelles peuvent être les causes de la résistance au changement, sans en faire un inventaire exhaustif, mais je peux penser à quelques-unes ici. L'habitude est une source de résistance au changement, celle de faire toujours les choses de la même manière, avec les mêmes outils, la question de la routine, de vouloir faire affaire avec la même personne. La peur de l'inconnu est une autre source de résistance au changement. Le futur devient flou, ambigu, incertain. Hein? On revient au fameux VICA dont on a parlé dans les épisodes précédents. On le voit encore aujourd'hui, comment la peur de l'inconnu ou l'incapacité de prévoir nous rend tous un peu anxieux, un peu nerveux par rapport à cette crise de la COVID-19. La crainte de pas être à la hauteur ou de perdre la face, la crainte de pas avoir les capacités de faire, d'apprendre, de s'adapter ou de performer dans une nouvelle réalité ou un nouvel environnement peut être une source de résistance importante. L'identification à la situation actuelle, hein, moi j'appelle ça le « not invented here », c'est vraiment le syndrome où c'est pas nous, ça vient pas de nous, c'est pas cohérence avec notre culture ou notre façon de faire peut-être ça aussi une source importante de résistance au changement. La peur aussi de pas pouvoir ou vouloir faire comme le groupe. Hein? Ces notions-là de pression des pairs peuvent venir jouer et devenir une source de résistance au changement. Et puis, les croyances. Ça aussi, quand on explore les cultures d'entreprise, certaines opinions ou certaines façons de faire peuvent devenir des certitudes et les faire évoluer deviennent difficiles. Plus la culture d'une entreprise est forte, plus elle est difficile à faire bouger ou à faire évoluer.
Mais je trouve ça super intéressant ce que tu viens de nous présenter. Ça me fait penser à deux choses qu'on me dit constamment en organisation. Quand je commence à parler du lean, la réponse que j'ai automatiquement, c'est « mais nous, on fait pas des voitures ». Fait que je trouve ça toujours très cocasse parce que c'est comme une transposition complète à 100% de qu'est-ce que le lean est au lieu d'aller chercher le concept. Exact. Et l'autre élément, c'est ma phrase préférée que j'adore entendre, c'est « mais on a toujours fait ça comme ça, pourquoi est-ce qu'on devrait changer? » Donc, ce que tu t'expliques, les habitudes, la crainte et tout ça, ça résonne beaucoup en moi. Puis ces deux phrases-là, c'est celles que j'entends le plus souvent, puis je les trouve un peu cocasses, donc je voulais juste les partager.
Ouais, et Carter, dans son modèle d'accompagnement ou de management du changement, dit « dès le début, il faut créer un sentiment d'urgence ou un sentiment de compréhension dans l'organisation sur le changement qui vient ou le changement qu'on doit aborder. » Encore là, quand ça vient de l'extérieur, c'est plus difficile de créer ça. L'extérieur va le faire de toute façon. Éric?
Un mot rapide sur ce que tu décris. C'est dans le fond, l'être humain est une créature d'habitude, une créature de routine. Et là-dessus, il y a un livre qui est génial, celui de Charles Duhigg, qui est « The Power of Habits », qui décrit justement comment ces habitudes-là, sans qu'on puisse, à la limite, s'en rendre compte, affectent notre quotidien. Et dans son bouquin, il explore évidemment les différentes facettes des habitudes et surtout comment qu'on est capable de les transformer, ces habitudes. Comment qu'on peut en prendre, être conscient, générer cette prise de conscience de certaines habitudes, qu'elles soient positives ou négatives, et comment il est possible justement de les transformer. Et ça reflète exactement ton propos par rapport à ce que tu décris et aussi ce que Véronica décrivait quand elle parlait de « ben on a toujours fait ça de cette façon-là ». Donc, la notion de routine devient facilement sincère ou s'imbrique dans l'ADN des individus et pour différentes raisons là, qui dépassent le cadre de ce podcast, mais qui clairement… Ce qu'il faut retenir en arrière, c'est qu'on a un pouvoir sur nos habitudes et on est capable de les transformer.
Oui, et c'est clairement, surtout dans un podcast qui s'appelle, le premier mot, c'est innovation. C'est certain qu'on sera pas les chantres de la conservation de nos habitudes. Je peux pas valoriser le fait que les succès passés seront garantis de succès futurs. Mais il faut savoir, comme tu dis, s'ajuster et reconnaître ces petites différences-là qui s'accumulent au quotidien et qui font qu'on doive évoluer. Dans ce deuxième segment, je vais explorer avec vous les évolutions récentes dans les pratiques d'accompagnement du changement. L'accompagnement ou le management du changement, ça n'a pas toujours été quelque chose d'important ou de stratégique pour les organisations en général, ni même dans les projets en général. Donc, c'est quelque chose qui a évolué au cours des, disons, 40 dernières années pour devenir un petit peu plus important. Aujourd'hui, on reconnaît que l'accompagnement et le management du changement sont des compétences qu'on doit trouver quelque part dans l'organisation, que ce soit du côté des ressources humaines ou du côté des technologies de l'information, mais on reconnaît ce besoin d'avoir l'expertise en matière d'outils et de techniques d'accompagnement du changement. On reconnaît aussi que l'accompagnement du changement ne se résume pas à l'élaboration de plans de formation et de plans de communication, mais que cette dimension-là d'accompagnement des individus est d'autant sinon plus importante pour assurer la réussite de nos projets. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de cette dimension accompagnement? Ben, on parle de diagnostic sur la capacité à changer de l'organisation et le développement de ces capacités-là d'une manière générale. Encore une fois, je reviens à ton intervention tout à l'heure, Eric, c'est à ça que servent nos experts ou nos ressources en accompagnement du changement. Un peu comme dans un bureau de projet, par exemple, où on va retrouver les compétences en management de projet. On peut aussi augmenter le niveau de participation et de communication autour des projets, que ce soit des projets de transformation ou d'autres sortes de projets, mais augmenter ces niveaux-là vont, comme vous disiez ou vous pressentiez, nous permettre d'identifier les sources de résistance et peut-être même de trouver des façons de les contourner un peu plus rapidement, un peu plus efficacement. Véronica?
Mais d'ailleurs, ça me fait penser, quand tu parles d'augmenter le niveau de participation, c'est pas quand le changement a lieu. En fait, la gestion du changement doit se gérer bien avant que le changement soit même, pas planifié, mais qu'il soit mis en marche. Donc, ce niveau de participation et de communication doit commencer quand on commence à réfléchir à qu'on doit faire un changement et impliquer les différents intervenants, les différentes parties prenantes dans cet échange-là d'informations et de collaboration pour s'assurer que quand on va arriver au moment du vrai changement, que ça va être plus facile parce que les gens vont avoir fait partie de la réflexion. Oui. Éric?
Bien, vois-tu, ce que tu es en train de décrire, c'est que quand on voit le changement comme étant une transformation d'étape A vers l'étape B et qu'on la regarde d'une façon peut-être plus macro, bien, à quelque part, on peut l'associer à des modifications, l'ajout d'activité, retrait d'activité au niveau managérial, au niveau de l'équipe, mais ça nous amène automatiquement à réfléchir en termes de compétences. Donc, quelles sont les nouvelles compétences qu'on veut développer dans l'organisation? Quelles sont les compétences malheureusement, qui sont peut-être moins importantes ou sur le déclin. Et ça demande d'avoir une vision extrêmement proactive sur à quel endroit on veut que l'organisation aille. Et ce cheminement-là, pour moi, c'est directement associé à l'orientation stratégique de l'organisation. Il y a des choix à faire pour être capable de soutenir l'orientation stratégique qu'on décide, et c'est un mouvement qui est à la limite déterministe. Donc, dans ce contexte-là, c'est quoi le modèle d'affaires qu'on vise à définir? Quelles sont les compétences qu'on a besoin pour soutenir ce modèle d'affaires-là et développer nos avantages concurrentiels? Et dans aucun cas, on doit être réactif ici, où on pourrait discuter de la notion de réactivité, de la notion de résilience par rapport au marché. Là, ça, c'est d'autres séries de discussions. Mais dans le cas de gestion de changement, ce n'est pas une question de juste un plan de cours, c'est une question de compétences qui nous assure d'être capable de vivre une transformation et de maintenir un positionnement dans le marché.
Et tu parlais de point A à point B, et je veux juste poser ces petites pierres-là sur le chemin, là. On y reviendra dans le prochain segment, mais aussi peut-être la transformation de A vers A prime, et puis de A prime vers A prime prime, et ainsi de suite. Donc, autrement dit, on va voir le changement d'une manière un peu plus continue et un peu moins discrète ou périodique. Dernier point aussi, cette question d'accompagnement-là peut se refléter en trouvant des méthodes pour aider et influencer les groupes autant que les individus dans justement les exercices d'appropriation ou d'essai, voire même, comme tu disais, Véronica, de conception dans les solutions, des solutions retenues qui vont, elles, générer des changements. Et puis, bien sûr, comme je le disais, en ayant des outils, des méthodes, des processus qui sont dédiés à l'accompagnement du changement et cohérents avec la culture d'entreprise. Cette notion-là de cohérence avec la culture est extrêmement importante. Dans tous les cas, il faut accompagner les individus tout au long de leur passage à travers chacune des quatre phases dont j'ai parlé dans le segment précédent. Donc, expliquer les sources du changement, recueillir les commentaires, les idées pour passer rapidement à travers cette phase de déni, créer des opportunités pour que les émotions suscitées par le changement puissent s'exprimer, remotiver les individus, remotiver les groupes, les faire discuter. Créer des espaces-temps pour que les gens puissent expérimenter la situation d'après ou le B ou le A prime, ainsi de suite, et favoriser et valoriser le partage d'expériences au sein des groupes et des communautés. Éric?
Mais en fait, ce que tu es en train de décrire, c'est la notion de quête de sens. Il faut que les collaborateurs, que l'équipe se développe un sentiment clair de justement du chemin à faire. Il faut que ça vienne faire du sens par rapport à qui aussi qu'ils sont, leurs valeurs. Il y a différentes, je vais dire ça de cette façon-là, il y a différentes couches ou différentes strates quand on parle de gestion de changement qui peuvent aller du superficiel dans le sens que c'est l'élément que ce matin, quand je rentre au travail, je fais ABC, demain matin, je vais faire X, Y, Z. Mais il y a aussi le changement qui peut toucher les valeurs de qui les personnes sont, les façons d'opérer, la place de l'individu dans l'entreprise, l'entreprise dans son écosystème. Il y a différentes couches et il faut être capable d'accompagner justement de façon très active cette transformation-là.
Moi, ça m'amène deux éléments. Le premier, qui sera vraiment trop long pour parler dans notre podcast d'aujourd'hui, fait que peut-être ça en sera un futur, mais le concept de la saturation du changement.
Oui, bien
sûr. Les gens ont une capacité maximum d'absorber différents changements, qu'ils soient simples, complexes ou ultra complexes, on a une capacité maximum de vivre ces changements-là.
C'est exact.
Mais c'est un sujet en soi, donc je voulais juste le souligner, puis je le mets comme sur la poche d'en arrière pour peut-être en reparler à un autre podcast.
Oui,
mais l'autre élément, c'est au niveau de pourquoi on fait les changements, puis les deux, vous avez parlé de la culture, de l'organisation. Moi, dans mon passé, j'ai vu des organisations qui vivaient des transformations une semaine après l'autre parce que dans les médias, on parlait cette semaine du design thinking, v'là deux semaines, on parlait du lean, v'là trois semaines, on parlait de quelque chose d'autre. Et les transformations étaient basées sur des principes qu'on voyait beaucoup dans les médias, mais qui n'étaient pas ancrés dans la culture de l'organisation.
La saveur du monde.
Oui, exactement, la saveur du mois. Et pour moi, ces transformations-là ont un impact ultra négatif, non seulement sur l'organisation, mais sur les employés. Donc, j'ai tendance à utiliser une autre terminologie. Quand je rencontre des entreprises, des dirigeants, je ne parle pas de transformation, sinon je vais parler d'évolution de leur entreprise. Donc, on va travailler sur les balises qui sont déjà là, sur la culture, sur les valeurs, sur l'apprentissage qui existe déjà au niveau de l'organisation et on va cibler quelles sont les étapes d'évolution qu'on peut faire au sein de l'organisation pour passer à des prochaines étapes et être capable d'affronter les 20 prochaines années. Mais cette vitesse-là de changement, si on la véhicule toujours comme une transformation à la saveur du mois, a un impact excessivement négatif, non seulement sur les résultats, l'atteinte des objectifs, mais sur les personnes elles-mêmes, parce que ça crée un désengagement massif auprès des employés. Éric?
Rapidement, sur le point que tu viens de mentionner, à quoi ça me fait penser, c'est que l'individu, quand on est dans une dynamique de transformation, le langage que tu viens de parler, changer le niveau de langage selon les circonstances, selon l'organisation, peut être très important parce que veut, veut pas, quand on utilise le langage de transformation, ça veut, les gens, certains individus peuvent percevoir ça en se disant, ben, qui j'étais avant, qu'est-ce que je faisais avant n'était pas bon. Et ça crée automatiquement une résistance au changement. Donc, développer le bon vocabulaire en fonction de la bonne circonstance, du type de transformation, si je peux garder ça encore ce mot-là, est très, 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 très important et ça demande beaucoup d'empathie pour piloter cette transformation.
Bon, une fois qu'on a parlé d'un peu tout ça, qu'est-ce que ça veut dire quand on veut parler de changement et d'agilité ou quand on veut parler de changement agile? Bien, le changement agile implique que la destination soit co-construite à l'aide des différentes parties prenantes qui seront affectées ou qui sont impliquées dans le changement envisagé ou dans la réponse à donner au changement dans l'environnement. Je veux vous donner l'exemple d'une compagnie aérienne, par exemple, une compagnie aérienne indépendamment de son nom. Elle cherche à faire évoluer la façon, les processus et la manière qu'elle a d'embarquer les passagers dans l'avion. Ce changement-là sera plus difficile à réaliser si la compagnie aérienne est un ancien transporteur national où, à l'époque, la culture de l'hospitalité était très importante et très forte dans ces transporteurs-là. Dans un autre cas, dans le cas d'une nouvelle compagnie aérienne un peu plus récente, une compagnie à bas coût, par exemple EasyJet, eh bien, le changement sera différent parce que il n'y a pas ces traditions-là. Donc, quand on va le regarder d'une manière prescrite, on reconnaît qu'il y aura des niveaux de résistance qui seront différents selon le type d'organisation qui doit changer. Le changement agile, eh bien, on va essayer de cas, c'est ça, en allant définir le changement, non seulement avec les collaborateurs, les employés, mais aussi avec nos clients. Donc, on va, comme je disais tout à l'heure, co-construire ce changement-là et on va faire des petites phases de définition, d'expérimentation et d'ancrage des nouvelles pratiques sur la base un peu d'un sprint en méthode agile. On va essayer de réduire le temps pour faire ces choses-là. Et ensuite, on va pouvoir disséminer les bonnes pratiques qu'on aura découvertes dans ces phases d'expérimentation. Véronica.
En fait, en amélioration des processus, on va avoir un guide de pratique qui est similaire à ce que tu viens de décrire avec les sprints, que ce soit du Lean, du Six Sigma ou même pour les gens qui connaissent maintenant le Toyota Kata, qui est un excellent livre de Mike Rother que vous allez trouver dans les références de l'épisode.
Oui.
On parle de cibler quel est l'objectif qu'on vise, mais pas la manière qu'on va se rendre parce qu'on laisse la place à la méthode scientifique et on laisse la place à l'équipe de découvrir quels sont les éléments, les variables importantes à travailler pour se rendre à notre cible. Donc, au lieu de monter une pente abrupte de changement, on monte un escalier où, exact, à chaque découverte, on détermine le chemin qu'on va prendre pour se rendre à notre cible. Et cette méthode de fonctionnement nous force à rester agile, mais nous permet aussi de voir rapidement les éléments qui peuvent nous permettre d'aller vers des solutions qu'on n'avait peut-être pas anticipées au départ.
Et de faire des découvertes en cours de route. Éric?
Absolument.
Mais c'est les deux propos que vous apportez, ça fait référence aussi de créer une culture qui est ouverte à l'expérimentation, une, oui, culture qui est ouverte à être ensemble pour vivre ce changement-là. Et par conséquent, il faut se poser la question, hein, comment les comportements quotidiens, comment les actions quotidiennes posées par les gens dans l'entreprise sont valorisées ou ne sont pas valorisées. Et c'est comme ça qu'on oriente aussi la culture par rapport aux actions qu'on veut encourager et qui nous permettent de faire ce que tu viens de décrire, Véronica, pour être capable justement d'aller chercher cette exploration-là. Est-ce qu'on récompense les moments d'exploration? Est-ce qu'on récompense les comportements qui sont, par exemple, collectifs ou qui sont co-créatifs par rapport à une organisation où est-ce qu'on va récompenser la performance individuelle? Donc, toutes ces petites nuances-là vont avoir une influence sur la capacité de changement des organisations et la capacité d'être proactif par rapport au chemin qu'on veut prendre.
Mais aussi, cette capacité-là d'expérimentation nécessite aussi une ouverture à accepter les erreurs, à accepter les expériences qu'on fait qui n'apportent pas les résultats concrets, mais desquels on peut quand même apprendre.
Oui.
Donc, je suis d'accord avec toi, Eric. Oui, fail to learn, puis c'est vraiment une culture d'entreprise à mettre en place pour être sûr de maintenir cette approche-là au sein de toute l'équipe.
Donc, pour revenir à l'exemple de la compagnie aérienne qui veut faire évoluer sa façon d'embarquer des passagers dans ses appareils, on peut soit prendre du temps pour essayer de concevoir quelque chose et puis ensuite imposer cette solution-là à l'ensemble, toute la compagnie, dans toute l'entreprise. On peut aussi décider de se laisser guider par qu'est-ce que nos clients et donc de trouver un équilibre entre ce que la direction peut vouloir et ce que nos clients peuvent vouloir. Est-ce qu'ils veulent vraiment ce sentiment d'hospitalité-là ou s'ils voient que ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée pour eux aujourd'hui? Dans le monde d'aujourd'hui où les choses évoluent rapidement, une approche un peu plus agile, donc où on va co-construire avec les différentes parties prenantes les nouveaux processus et les nouveaux outils, peut donner des bons résultats et surtout faciliter cette appropriation-là du changement. Mais ça nécessite des outils qui vont nous aider à concevoir, à réfléchir, à observer aussi qu'est-ce qui se fait de bien ailleurs, que ce soit dans notre secteur d'activité ou dans d'autres secteurs d'activité. On peut parler aussi d'ateliers participatifs et exploratoires. On peut même parler d'un vol, hein, on pourrait dire. Sur ce vol-là, c'est là où on va faire évoluer nos pratiques. Et puis ensuite, c'est le vol qui sera exploratoire et on fera tourner le personnel pour justement voir comment tout le monde, au sens large du terme client, superviseur, collaborateur, vive ces nouvelles façons de faire. Donc, mais dans tous les cas, on parle d'un niveau de participation et de communication élevé. Participation élevée dans la capacité de prise de décision et de la capacité de faire des choix à la fois tactiques, et peut-être même jusqu'à des choix stratégiques. Et puis aussi communication élevée dans le sens que toutes les informations sont disponibles et accessibles à toutes les parties prenantes de ces expérimentations.
Puis un des éléments aussi à garder en tête, c'est que cette communication-là doit absolument être une communication à deux sens. Quand on dit le principe de la porte ouverte, ça ne pourrait pas être plus important dans le cas d'un changement. Oui, on doit véhiculer, comme gestionnaire, on doit véhiculer à l'équipe pourquoi on fait les changements, c'est quoi les raisons, qu'est-ce qu'on vise, mais on doit avoir une grande écoute aussi de nos équipes pour s'assurer qu'on capte bien les enjeux qui seraient présents au niveau opérationnel, mais aussi leur crainte, comme on parlait tantôt, les différentes phases. Donc, c'est vraiment une communication à deux sens qu'on doit s'assurer de maintenir, pas juste une communication où nous, on explique qu'est-ce qu'on fait, mais que ça arrête là. Surtout quand on implique des clients, comme l'exemple que tu donnais avec le vol de test.
Ouais, par exemple.
Si on implique des clients, on doit encore là s'assurer d'avoir une communication à deux sens avec le client aussi.
Et le numérique nous donne des outils pour aller recueillir aussi ce feedback-là d'une manière facile. Le mot anglais qui me vient à l'esprit, c'est « seamless ». Hein? C'est
ouais,
vraiment
plus accessible.
Ouais, ouais, d'une grande accessibilité. Et puis surtout maintenant, la barre, les résistances au changement à l'utilisation d'outils numériques est en train de chuter au sein de la population au sens large du terme. Rappelle-moi aussi, Véronica, quand tu parles de porte ouverte, d'inviter quelqu'un chez Cascade pour justement parler de cette... Chez Cascade, on a une politique de porte ouverte et toutes les petites légendes et anecdotes qu'ils peuvent raconter autour de ça, c'est absolument savoureux. Et je pense que les auditeurs du podcast aimeraient beaucoup ça.
C'est noté.
Donc, et je termine sur cette question-là. Donc, je termine cette partie-là sur agilité et changement en vous disant que ben, on peut envisager le changement par une série de petits changements incrémentaux. Et aussi, je reviens un peu sur ce que tu disais, cette capacité de se laisser porter par les découvertes de ces expérimentations-là. Pas seulement les découvertes, comme on disait tout à l'heure, test and fail, ça, on a compris, on va apprendre de ces échecs-là, mais des découvertes qu'on peut faire auxquelles on ne s'attendait pas. Et là, comme tu dis, c'est là où les perles sont, où le trésor se trouve souvent dans les endroits où on ne les attend pas, où on ne peut pas les prévoir. On s'aperçoit que tout d'un coup, le taux de satisfaction des passagers ou des employés monte en flèche. Et mais on pensait pas nécessairement que telle ou telle mesure pourrait avoir cet impact aussi important. Donc, se laisser cette marge de manœuvre-là pour faire ces découvertes-là, je pense que c'est essentiel. Et puis, ces choses-là peuvent, à terme, revenir et même faire évoluer la stratégie de l'entreprise dans son marché. Les trois points clés que je veux que vous reteniez du podcast d'aujourd'hui, c'est le premier, c'est le changement, c'est maintenant, comme se plaisait à dire un ancien président français. Mais chacun change à son rythme et certains ont davantage besoin d'être accompagnés que d'autres. Le changement agile aussi se prête bien au changement profond et évolutif car ces approches participatives suscitent plus facilement l'engagement durable des parties prenantes et génèrent parfois des solutions plus appropriées au contexte du moment. Et puis finalement, on revient encore à ces questions de changement de culture où non seulement le comment devient la responsabilité de tous, mais aussi le où, voire même le pourquoi. Et là, on arrive à cette question-là de stratégie agile. On reviendra sur ces concepts de stratégie agile dans un podcast subséquent. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour consulter les notes de l'épisode, visitez le site inteliaconsulting.com/épisode 6 et bien sûr, vous abonnez à notre podcast sur vos plateformes de choix. D'ici le prochain épisode, c'est Jean-François qui vous souhaite une très bonne semaine.
Merci à vous deux. Bonne semaine tout le monde. À la semaine prochaine et restez en santé.
Bonne semaine Jean-François, bonne semaine Véronica. À bientôt.
Bye.